Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Laetitia, la maman de Jean-Baptiste et Augustin. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est le petit garçon du film Lourdes, venu avec son papa au sanctuaire prier pour son petit frère atteint d'une terrible maladie de la peau. Et lui-même est atteint d'une autre maladie génétique. J'ai voulu en savoir un peu plus sur cette famille hors norme, durement touchée par la maladie. Comment continuer à prier quand on sait que votre enfant est condamné? Comment traverser une épreuve aussi lourde? Je suis très heureuse et reconnaissante à Laetitia d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Laetitia.
Bonjour Marie.
Merci d'être venue.
Avec grand plaisir.
Pour commencer, je vous ai demandé d'apporter un objet en lien avec l'épreuve que vous traversez en ce moment. Quel est-il?
Alors, il n'y a pas un objet, Marie, mais il y en a deux. Il y a un chapelet que l'on m'a transmis lorsque j'avais 16 ans par un père missionnaire. Je l'ai rencontré parce que nous vivions quelque chose de compliqué à la maison, à savoir, je venais d'apprendre à mes parents que j'avais été souillée par quelqu'un de la famille. Et à ce père, je n'ai pas eu besoin de lui dire. Et il m'a donné ce chapelet. Il m'a dit, n'aie pas honte et Marie est toujours avec toi. Ce chapelet, j'ai toujours gardé. Et aujourd'hui, il me sert dans les épreuves que l'on traverse avec les enfants. Même si à certains moments, je l'ai mis de côté. Là, maintenant, il est toujours avec moi, dans ma poche ou dans mon sac. Mais il est toujours avec moi. Et le deuxième objet, c'est le doudou reçu pour la naissance de Jean-Baptiste. C'est une amie qui l'offre, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et... Jean-Baptiste y tenait beaucoup, c'est ce petit mouton bleu que l'on voit dans le film Lourdes. Et Jean-Baptiste l'a transmis très généreusement à son frère. Et ce doudou, c'est le doudou douleur, c'est le doudou tout doux, et puis ça rappelle aussi la petite brebis que l'on est. Donc voilà, il était parti à Lourdes parce que ce doudou représentait à la fois Augustin, ses douleurs. Et lorsqu'il a été frotté sur cette roche, c'était pour donner toutes les douleurs d'Augustin vécues jusqu'alors, et qui se recharge, qui lui donne plein de force pour pouvoir aller au ciel quand Dieu l'appellerait.
D'accord. Alors pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette épreuve que vous traversez?
Oui, alors je suis maman de deux enfants porteurs de handicap. Jean-Baptiste, aujourd'hui, il a 10 ans. Il est porteur du syndrome Prader-Willi, c'est-à-dire qu'il reste de petite taille, il n'a pas la satiété et du coup, c'est un dysfonctionnement de l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, tout ce qui est hormonal ne fonctionne pas bien. Voilà, avec un retard neuromoteur. Et on n'est pas porteur. Lorsque j'étais enceinte, il y avait des soucis, mais rien n'était vu. Et le deuxième, Augustin, qui est né 6 ans après, il est porteur d'une maladie génétique qui s'appelle l'épidermolyse bulleuse jonctionnelle dans une sous-forme Ehrlich. Et lui, son espérance de vie était normalement jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Il en a 4 ans et demi aujourd'hui. Donc Augustin est en soins palliatifs à la maison depuis janvier 2016. Aujourd'hui, il est dans un centre 2 à 3 fois par semaine, ce qui nous permet de nous libérer un peu de temps.
Si on revient un petit peu sur l'annonce de la maladie d'Augustin, j'imagine qu'ayant déjà un enfant malade, quand on vous annonce un enfant malade et plus malade en plus que Jean-Baptiste, quelles ont été vos réactions, vos sentiments?
Eh bien, une grande incompréhension vis-à-vis en fait de Dieu. J'étais en colère vis-à-vis de lui, j'ai même... dit mais pourquoi tu nous fais ça? Qu'est-ce que je ne fais pas d'assez bien pour toi pour nous imposer cette autre épreuve? Donc c'est ce que j'appelle mes psaumes de colère. Et ensuite, j'ai conclu en disant, si t'es vraiment là, si tu nous aimes, eh ben, tu n'as pas à nous laisser seuls dans cette nouvelle épreuve, t'as intérêt à nous accompagner. Donc je compte sur toi. Et effectivement, il nous a accompagnés tout du long de l'épreuve, depuis, on va dire, le diagnostic posé jusqu'à aujourd'hui.
En quoi voyez-vous sa présence, justement, dans cette épreuve ?
Eh bien, je la vois, mais vraiment au travers du visage des enfants. Je la ressens aussi. Alors, je la vois au travers des visages de l'enfant, parce qu'Augustin, avec ses plaies, il a certaines plaies qui sont posées comme celles du Christ. Et du coup, j'ai l'impression et la sensation de soigner le Christ, comme quand il a été le long de ce chemin de croix. Donc cette présence nous aide et nous transcende et nous dépasse, parce que c'est pas mon métier à la base. J'étais attachée de direction et donc nullement une infirmière. Je n'étais pas préparée non plus au handicap. Donc il est là, il nous aide, et puis aussi bien dans les soins que l'on apporte, mais aussi moralement. Quand ça flanche, il y a toujours quelqu'un qui va nous envoyer un SMS à ce moment-là, ou faire un toc-toc à la porte, ou un appel. Et d'un seul coup, on rebondit, on va pas au fond du trou. Donc cette présence, elle est là. Elle est rappelée aussi à travers notre petit Augustin, qui régulièrement là est malade. Alors par sa maladie, mais aussi par la bobologie hivernale, mais qui s'accentue du fait de sa pathologie. Et il dit « Seigneur, j'ai besoin d'aide de lui-même ». Et quand il a cette guérison d'une bobologie ou par un accident, comme juste avant Noël, une kératite, dès qu'il a réouvert les yeux, il a dit « Merci Seigneur, merci Marie, tu m'as entendu ». Alors je pense qu'eux, ils nous montrent le chemin.
Mais est-ce que ce n'est pas quand même complètement injuste de voir un enfant si innocent, si petit, souffrir si gravement, si durement? Ça...
Alors, on pourrait penser effectivement une part d'injustice, mais je ne suis pas du tout sur ce créneau-là. Parce que pour moi, finalement, on est dans le monde militaire, et de voir ces militaires qui ont été tués tout au long de l'année, ce n'est pas plus juste. Les pompiers qui sont morts en sauvant des vies au feu, c'est pas plus juste, ou même blessés. Donc je positionne pas sur cette notion de justice ou d'injustice. Il y a des adultes qui ne méritent pas non plus. En revanche, c'est de transcender cette douleur, cette souffrance, pour nous rapprocher de notre foi au maximum.
D'accord. Et oui, parce que je rappelle que votre mari est militaire, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et oui, très concrètement, vous avez quand même dû arrêter de travailler pour vous occuper d'Augustin, c'est ça ?
Alors, j'avais arrêté de travailler à la naissance de Jean-Baptiste. C'est un choix que nous avions fait pour être au plus proche des soignants et du coup lui donner le plus de chances d'être autonome plus tard. Naissance d'Augustin arrivant, là où il s'est obligatoire l'arrêt de travail parce que c'est du H24. Donc c'est à la fois un choix et en même temps une obligation que je fais avec plaisir, mais qui n'est pas sans dommage économique de notre côté.
Et quels sont, je reste toujours dans ce domaine concret, quels sont vos moments de respiration, vos moyens de vous évader un petit peu? Il y en a qui écrivent, d'autres qui font du sport, d'autres qui font de la cuisine, je ne sais pas, que sais-je. Quels sont, vos moyens pour vous évader un petit peu, de prendre du recul, etc.?
Alors, celui qui est récurrent, c'est une fois par mois, je fais de la poterie pour faire autre chose de mes mains que de découper des pansements. J'ai à peu près 3 heures de découpe par semaine de pansements, donc on a envie de faire autre chose. Donc, la poterie. Et ensuite, c'est de la marche. Voilà, seul ou avec Jean-Baptiste. On marche énormément. Pour du répit, mon mari m'octroie de temps à autre un week-end 48 heures off dans un hôtel pour que je puisse dormir sur mes deux oreilles et récupérer ainsi. Ça va être le rire. L'autodérision, ça ressource énormément, notamment dans les périodes les plus critiques. Et dans une période critique comme dernièrement avec la kératite, nous sommes dans l'obscurité. C'est de savoir prendre du plaisir avec d'infimes choses Et ça, cette infime chose, c'est simplement parfois regarder l'herbe pousser. Hein. Il y a 20 cm de volée d'ouvert, mais on peut voir juste l'herbe. Et ça va être de voir voler une feuille dans l'herbe et de la regarder finalement danser, s'imaginer des choses. Donc, c'est sur des choses très terre à terre, très simples et qui sont accessibles à tous.
Justement, je voulais vous demander quelles étaient vos armes contre la souffrance. Donc, il y a le rire. Vous arrivez à rire dans cette épreuve?
Oui. J'irais même, c'est obligatoire chez nous. Ça peut désarmer d'ailleurs certains médecins ou certains proches. Mais du coup, en voyant leur tête, ça nous fait encore plus rire intérieurement. Les deux infirmiers qui sont chez nous savent que le rire est important. Donc, quand nous sommes dans le noir ou dans la pénombre, nous disons que nous sommes en mode Laponie. Donc, la Laponie, ça tombait bien. Nous étions sur la période de Noël. Voilà. On pratique ce genre aussi d'autodérision vis-à-vis de nous. Ça va être aussi du coup de regarder simplement des humoristes, ça va être de regarder, de relire une BD telle que Gaston Lagaffe qui me faisait bien rire étant jeune et qui me fait toujours autant rire par sa naïveté, et sa simplicité. Donc le rire est important et même en cas de douleur, il nous est arrivé que Jean-Baptiste rit à côté. Et nous avons vu Augustin ne plus hurler de douleur, mais commencer à pouffer de rire. Donc on s'est dit, ça permet de transformer aussi une douleur en quelque chose de plus tranquille pour lui. Donc le rire est communicatif, même dans la douleur, ça permet d'apaiser. Alors le mot de code avec des amis, c'est « tu m'envoies une blague carambar ». La blague carambar, elle est simple, hein. Elle est basique, et ils savent que c'est un code. Ça veut dire que la situation va mal à la maison, que je vais rire et que du coup ça va apporter de la joie autour de nous. Voilà. Et ça veut dire aussi pour eux, pour les personnes croyantes, on va prier pour eux.
Parce que là, Augustin, oui, depuis 2 ans, il est en soins palliatifs, c'est ça, à la maison.
Oui.
Et sa situation reste très précaire.
Alors, elle reste, non, je dirais, elle va mieux par rapport au film. Au moment du tournage, on ne savait pas s'il allait passer l'été. Très clairement, il était à des doses de morphine par jour adulte. Même le médecin palliatif n'a pas compris comment il pouvait ingurgiter ces milligrammes. Donc on le voyait partir et on se préparait. Hein. Clairement, nous avons été aux pompes funèbres. Pardon. J'ai été aux pompes funèbres avec pour tout préparer. C'était très précaire et depuis, Augustin va bien mieux. Nous avons divisé par 6 la prise d'antalgique. Nous continuons à diminuer. Toutefois, la maladie est bien là. Elle est bien présente sous différentes formes. Les médecins ne comprennent pas juste ce qu'il se passe. Donc, nous pratiquerons une biopsie pour les aider. Voilà, et aider d'autres enfants au besoin. Mais clairement, nous pensons qu'il reçoit des grâces, nous recevons des grâces. Et le temps de vie qui est parmi nous, c'est pour continuer à cheminer. C'est lui qui nous mène sur le chemin de la sainteté. C'est lui qui nous rapproche du Christ. Donc voilà. Moi, je lui ai dit qu'il avait le droit de partir quand il voulait, qu'on l'aimerait toujours. Le ciel l'interroge énormément. J'essaie de le rassurer avec ce que je sais. Et quand je ne sais pas, je dis, mon chéri, je ne sais pas. Voilà.
Et oui, voyez-vous dans cette amélioration effectivement un miracle de Lourdes ?
Alors, je ne dirais vraiment pas un miracle, parce que pour moi le miracle est complet, c'est une guérison complète, ce qui n'est pas le cas. Il est toujours porteur de sa maladie, des grâces, et puis il faut pouvoir vivre avec un miracle. On n'est pas forcément cru, il y a beaucoup de démarches, et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir recevoir un miracle. Des grâces, tout le monde peut en recevoir à différents niveaux. Et je pense qu'Augustin a des grâces, et notamment cette grâce d'être parmi nous, d'aller mieux, d'avoir moins d'antalgiques, d'avoir supporté des très hautes doses, mais toujours très lucide. Donc ce sont des grâces reçues, oui, alors je dirais de la Vierge Marie et par l'intercession de saints et de bienheureux. On ne prie pas qu'un saint. Pour reprendre un terme que Monseigneur Ravel nous a inculqué un jour, dans la prière, c'est comme une partition d'orgue. On ne prie pas à saints, mais faites appel à différents saints, et eux feront leur affaire avec le Seigneur.
Et qu'est-ce qu'Augustin vous a appris justement dans ce domaine de la foi?
Alors Augustin, en fait, sa foi s'est révélée le jour où il a été à Lourdes pour la première fois, donc en 2018. C'est là où il a reçu le sacrement des malades, puis le sacrement de la première communion, et enfin, pour qu'il ait tout reçu, c'était le sacrement de la confirmation. Il s'est endormi tranquillement, tel un petit saint, il était très très beau dans cette carriole, et à partir de ce moment-là, il a récité son « Je vous salue Marie », son « Notre Père » seul, alors qu'avant il jouait, et donc on avait l'impression qu'il n'était pas du tout à l'écoute comme son grand frère Jean-Baptiste. Et en fait, tout doucement, il s'est mis à parler de lui, de Marie, de Jésus, à poser des questions. Quand on l'emmenait à la messe, bien évidemment, c'est les chants qui sont les plus heureux pour lui. Mais on s'aperçoit qu'il y a toujours une oreille qui traîne. Et dernièrement, il y a plusieurs expériences où nous sommes à l'église, il va regarder le chemin de croix. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu... Pourquoi tu le regardes? Il dit, voilà, c'est, tu vois derrière, hein, c'est un soldat, il est très méchant ce soldat. Il va faire mal à Jésus, il va le tuer. Mais Jésus, il est tellement gentil, c'est qu'il va lui pardonner, il ira au ciel avec lui. Donc finalement, ce petit bonhomme, comme d'autres saints, comme Sainte Bernadette, qui a pris la catéchèse sur ce triptyque dans l'église, lui pareil, c'est lui qui nous enseigne des petites choses, apparemment, mais qui sont énormes. Donc il nous fait cheminer avec ses yeux d'enfant, ce qui nous rappelle souvent d'ailleurs un texte qui nous dit « Laissez venir à moi les enfants et restez les enfants ». Donc on a beau être adulte, mais nous restons et demeurons des enfants de Dieu. Et donc de se repositionner régulièrement en enfant.
On peut dire que c'est ça qui a changé dans votre foi, justement, depuis.
Oui.
Le fait de devenir enfant de Dieu, petit enfant.
Petit enfant, tout à fait. Et rien qu'en lisant avec Jean-Baptiste différents livres ou en écoutant, je redeviens une enfant. À ces moments-là, j'apprends avec eux aussi. Et en les écoutant, en les observant lors d'une célébration, parfois c'est eux qui nous montrent le chemin. Et en tant qu'adulte, je ne me sens pas plus élevé qu'eux, bien au contraire, je les écoute et de quel droit je dirais « non, tu as tort ». Ils disent souvent « Dieu m'a parlé dans mon cœur ». Et le cœur, n'est-ce pas l'âme, l'endroit de l'âme. Donc je les écoute.
De vrais maîtres spirituels alors?
Absolument, je dis que c'est souvent nos maîtres et professeurs.
C'est inversé, mais c'est souvent comme ça dans le royaume de Dieu, voilà. Les choses sont inversées.
Et du coup, pour revenir sur l'injustice finalement, c'est pas injuste, ils ont une belle place. C'est la juste place qu'ils auront. Alors, on a cette chance quand on est croyant et pratiquant. C'est de se dire que finalement, ils auront une belle place au royaume de Dieu qui est éternel, contrairement à notre vie sur Terre qui est limitée dans le temps.
Et j'ai une question sur votre couple. Souvent dans des épreuves comme ça très dures, les couples ont du mal à rester ensemble parce que voilà, ça fait voler en éclats malheureusement un couple. Et j'ai l'impression que vous êtes très unis, que vous êtes animés par une même foi. Est-ce le cas? Comment traversez-vous cette épreuve ensemble?
Alors,
et différemment.
Et différemment, mais effectivement parce que on est très unis, mais notre couple a été chamboulé plusieurs fois. Hein, et c'est avant tout par rapport à des aspects médicaux où les médecins se mettaient finalement entre nous, en nous faisant culpabiliser. Donc il y a eu un moment où j'ai fait 10 jours de pause pour que mon mari comprenne mon quotidien avec Jean-Baptiste.
C'était bien, 10 jours. Vous faisait culpabiliser, j'ai pas compris.
Sur la prise en charge des traitements médicaux.
Par vous-même?
Alors, notamment, par exemple, pour l'hormone de croissance, moi, j'avais pesé le pour et le contre, et j'étais contre. J'en avais discuté avec mon mari, mais voilà, les médecins avaient réussi à retourner un petit peu la situation en disant « mais non, c'est le meilleur », et moi, je lui ai rappelé « mais rappelle-toi ce dont on a discuté ». Et donc, à un moment donné, oui, ça a failli voler en éclats. Donc là, à ce moment-là, on a eu cette chance de quelqu'un de notre famille qui nous a dit « pars en vacances, ça fait 2 ans que tu es avec Jean-Baptiste, H24, prends du repos et ton mari verra aussi ce que tu vis au quotidien et est-ce nécessaire ?» Donc ces 10 jours, c'était de pause où j'ai lu, je me suis reposée et j'ai fait un point sur notre vie, à savoir quel sens je donnais à ma vie, quel sens je donnais à la vie d'une manière générale, à la vie de notre enfant. Et sans tous ces médecins, comment nous ferions ? Et la réponse a été simple, c'est que c'était l'amour. L'amour pour accompagner notre enfant, c'était la meilleure des choses. Donc on est revenu, mon mari a compris effectivement notre quotidien H24. Et il a dit « tu as raison ». Et ensuite, notre foi, elle a grandi aux côtés de Jean-Baptiste. Elle a grandi grâce au prêtre qui a baptisé Jean-Baptiste, qui nous a un peu bousculés aussi et poussés dans nos retranchements. Donc notre foi, elle a évolué ainsi. Elle évolue différemment, bien évidemment, parce qu'on a des sensibilités différentes entre hommes et femmes. Et puis, il faut savoir aussi avancer chacun son rythme et le laisser ou me laisser avancer. Donc c'est une histoire réciproque de partage et d'accepter là où en est l'autre. Ensuite, malgré tout, avec Patrick, oui, nous sommes soudés, plus que jamais, même si on a essayé de nous séparer par ailleurs. Non, nous sommes bel et bien soudés pour être le plus fort possible à nos enfants qui, on s'aperçoit, ils ont besoin de l'amour et ils ont besoin de l'amour des deux parents. Alors, quand c'est possible, restons unis. Mmh.
Et vous avez parlé d'un proche qui vous a donné ce conseil de partir en vacances. Je crois que l'entourage joue un rôle assez précieux dans les épreuves. Quel rôle joue votre entourage ?
Alors, il y a eu des moments où ils étaient une aide, effectivement, comme dans ce cas-là. Et il y a des moments où, au contraire, ce sont d'énormes freins. C'est-à-dire que c'est parfois quelqu'un de l'entourage, une sœur qui m'a dit « il faudrait que tu te sépares de Patrick ». Ça ne va pas du tout. Donc j'ai fait le choix, j'ai dit non. Il aime ses enfants. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a une attitude qui ne plaît pas à quelqu'un de la fratrie qu'il faut abonder dans son sens. Justement, quand on apprend le genre de verdict et notamment ces maladies-là, on n'en sort pas indemne, il faut du temps pour accepter cette chute, cette mise à l'épreuve, ce changement de vie radical. Et ce temps est nécessaire et forcément, on ne va pas être forcément agréable avec nos proches. Et c'est là où on a plutôt davantage à dire « j'entends, j'écoute », mais surtout pas donner des conseils de séparation, nullement. Alors, frères et sœurs ou parents, ils font ce qu'ils peuvent, ils peuvent avoir aussi les peurs, face au handicap, donc je ne veux pas les juger. Quand une famille entoure, c'est magnifique. Quand elle ne peut pas, eh bien, nous avons les frères et sœurs du Christ. Et ceux-là, on est sur la même longueur d'onde et ils nous aident. Donc au quotidien, c'est mes frères et sœurs en Christ qui nous aident.
Qui sont ces frères et sœurs en Christ ?
Eh bien, c'est des personnes qui sont de la paroisse, qui viennent me donner un coup de main avec Jean-Baptiste, pour donner soit un cours, puisque nous faisons l'école à la maison, soit me donner ce temps libre aussi de marche, ils sont ensemble. Ça va être aussi pour garder Jean-Baptiste Augustin, pour que nous puissions faire un tête-à-tête avec mon mari, ce qui était très rare. Pendant 2-3 ans, nous n'avons pas pu manger ensemble, ne serait-ce qu'avoir un repas ensemble. Et ça fait partie aussi parfois des dégradations de couple. Donc... ça, ce n'est pas toujours vu, ce n'est pas toujours apprécié par l'entourage direct. Mais toutefois, ça participe à l'évolution de la famille. Donc, donner du temps par une garde d'enfants, ça permet de se retrouver, ce qui est nécessaire, et de consolider le couple.
Et puis de prier ensemble avec ses frères et sœurs en Christ, parce que j'imagine que le soutien spirituel est très important aussi.
Alors le soutien spirituel est énorme. Je dirais à la limite, la prière des frères et sœurs en Christ est bien plus grande que la nôtre. C'était aussi une expérience que j'ai pu faire lors d'un pèlerinage en Terre Sainte. C'était de réciter le Notre Père en pensant à quelqu'un qui m'avait confié une souffrance. Et effectivement, le Notre Père avait une autre résonance. Donc je dirais, je prie très rarement pour nous-mêmes, je prie davantage pour les personnes qui prient pour nous. Donc ça peut être au sein de la paroisse, mais ça va être aussi les personnes qui prient depuis la sortie du film et qui ont eu connaissance. Donc soit ils nous contactent directement via la page Facebook publique, soit indirectement. Mais on ressent cette prière. Et donc c'est eux, nos frères et sœurs en Christ.
Je reviens sur ce que vous avez dit un peu avant. Vous avez évoqué ce temps long d'acceptation de la maladie, un temps voilà, où il faut... Combien de temps ça a pris et qu'est-ce qui a fait que vous avez voilà, fait ce pas d'acceptation?
Le temps, je ne peux pas vous dire exactement combien de temps ça a pris, que ce soit pour Jean-Baptiste ou Augustin. Mais je dirais un bon 6 mois de mon côté. Il fallait se relever, voire un an pour même Jean-Baptiste, puisque c'était vraiment le tout premier et on n'était pas assis dans la foi comme aujourd'hui, très clairement.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce pas d'acceptation? Est-ce que vous vous souvenez?
C'était il est là. Il se bat pour vivre, alors je dois être à ses côtés. C'est Jean-Baptiste déjà, en fait, où on l'a vu se battre pour vivre au tout début. Et donc je me dis, mais il a une telle force, une telle énergie, je n'ai jamais pleuré à ses côtés parce que je me refusais de pleurer à ses côtés. En revanche, je pleurais quand je devais me séparer de lui en partant de l'hôpital et passer ma nuit seule dans la maison. Et sa chambre de bébé était vide, hein, donc c'était... très compliqué à ce moment-là, mais c'est eux qui ont donné cette force. Et la force a été décuplée au moment où nous avons préparé le baptême de Jean-Baptiste, où le prêtre nous a dit « Je veux bien baptiser votre fils, mais à une seule condition, c'est que je veux vous voir tous les samedis soirs ou dimanches à la messe. » Il a osé le dire, et heureusement qu'il a osé le dire. Parce qu'il a dit « L'éducation, c'est aussi l'éducation religieuse que vous voulez donner par le baptême, et pour ça, il faut être nourri. » et être nourri au moins une fois par semaine. Donc venez à la messe. C'est ce que nous avons fait. Nous avons
parce
été nourris.
Avant, vous n'étiez pas pratiquant, parce qu'on était voit dans
pas
le film
pratiquant.
Une foi super forte.
Ouais. Alors oui, non, on n'était pas, on n'avait pas du tout cette même pratique. Lorsqu'on s'est mariés, bien évidemment, on était croyants, pratiquants, mais pour les grandes occasions. Et finalement, quand on allait à la messe, c'était davantage pour entendre la chorale que les textes. Donc en fait, on dit bien que chanter, c'est prier 2 fois, mais c'est quand même pas la peine assez. On a bien vu que les valeurs n'étaient pas les bonnes. Et c'est quand nous sommes arrivés à Rennes, j'ai dit à notre voisine, est-ce que tu connais une bonne paroisse où ça chante bien? Bien évidemment, c'était ça qui était le plus important. Donc elle nous donne cette paroisse et c'est là où il y avait 2 bonnes homélies. Alors mon mari préférait faire son footing ou regarder des émissions bien masculines du dimanche matin.
je crois voir les voilà.
Et du coup, j'allais seule à la messe de temps en temps. Et puis, c'est au moment vraiment où Jean-Baptiste est sorti du service néonat. Il avait encore sa sonde nasogastrique. Et j'ai eu cet appel. J'entendais les cloches de l'église et je dis, je dois aller là-bas. Avec l'appréhension de dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire en voyant ce bébé? Ils vont me poser 15 000 questions, je ne suis pas prête à répondre. Et en fait, l'accueil a été tout autre. Et c'est les enfants qui m'ont accueilli, qui se sont penchés sur le couffin, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Et eux, ce qu'ils ont vu, ce n'était pas la sonde nasogastrique. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et là, j'étais rassurée, j'ai dit, mais voilà un lieu où finalement, je ne suis pas jugée, je ne suis pas vue. Il n'est pas vu comme une bête curieuse. Et donc, ça m'a entraînée à aller de plus en plus dans cette paroisse, effectivement, et ensuite à demander. Donc non, notre foi a réellement grandi grâce au départ à Jean-Baptiste. Et puis à ce prêtre qui nous a bousculés, et il a eu vraiment raison. Et ensuite, c'est en allant sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle avec Jean-Baptiste, on a fait juste un petit 10 km, mais il avait un an et demi. Et je dis à mon mari, il me manque quelque chose. Et j'avais le chapelet dans ma poche. Et il me dit quoi? J'ai dit, il me manque la confirmation. Et lui aussi. Donc nous avons été confirmés à Rennes, et Jean-Baptiste avait donc 2 ans et demi. Donc notre foi a vraiment cheminé à travers au départ Jean-Baptiste, et alors je dirais elle a explosé avec Augustin. Donc ce qui a été donné avant cette naissance, c'est un petit feu. Hein, c'était une petite lueur. Et aujourd'hui, je dis souvent, notre foi, aujourd'hui, c'est un beau feu et on a envie de partager et allumer d'autres lumières autour de nous.
Et je vous ai demandé d'apporter un livre qui vous aurait particulièrement touché, soutenu dans votre épreuve. Lequel est-ce ?
Alors, j'en ai rapporté un, effectivement, mais je souhaitais... parler d'autres livres, bien évidemment. Le premier, ça a été, qui sont moins connus. Le premier, c'était « Mais moi, je vous aimais » de Gilbert Cesbon. J'avais 11 ans quand je l'ai lu. Et finalement, rétrospectivement, je pense qu'il m'a interpellée par ce petit garçon qui était hors norme et par l'amour qui était entre ce père d'adoption et ce petit garçon. Donc finalement, celui-là a dû me percuter et voir la vie différemment de ceux qui m'entouraient à l'époque. D'être déjà sur le chemin de l'amour et pas sur le chemin du matérialisme à outrance. Et puis après, comme beaucoup de personnes, des livres clés comme Anne-Dauphine Julien, avec Deux petits pas qui est dans le sable mouillé, L'homme qui voulait être heureux avec Laurent Goulnel, Mange, prie, M, Gaspard entre terre et ciel, ça nous a aussi beaucoup parlé parce qu'on s'est retrouvés. Drôle de bulle avec Emmanuel Rousseau, on s'est vraiment retrouvé puisque son petit Charles a la même maladie qu'Augustin. Et puis en ce moment, je suis en train de lire Chaque jour est une vie de Jean d'Artigue, où pareil, je dirais c'est un livre que je conseille justement pour les personnes, non pas qui sont forcément déjà malades, mais pour tout le monde, parce qu'il décrit très très bien finalement, on va dire, la vie normale, ordinaire et la vie extraordinaire, comme on aime à le dire. Alors ce que j'ai ramené, puis quand j'étais gamine, c'était Gaston Lagaffe, hein, comme je disais tout à l'heure, pour rigoler, et ça reste Gaston Lagaffe de temps en temps, je reprends dans la bibliothèque. Mais un livre qui m'a été donné, alors que j'étais enceinte d'Augustin, sur la bienheureuse sœur Marie-Céline de la Présentation à l'école de la souffrance. Et rétrospectivement, on peut se dire, ce livre donné par la marraine d'Augustin, en fait, il me préparait ce que nous allions vivre.
Vous ne saviez pas à ce moment-là qu'Augustin était malade ?
Non, j'avais juste une grossesse pathologique avec un retard de croissance intra-utéro, mais qui n'a rien à voir finalement avec sa maladie. Donc, ça n'avait aucun lien sur la souffrance. Augustin, du point de vue médical, il pensait qu'il allait avoir une trisomie 21, une trisomie 13 ou un syndrome Prader-Willi, une maladie neuro-invalidante. Donc il voulait faire une amniosynthèse que j'ai refusée parce que j'ai dit « vous allez chercher ces 4 maladies et manque de bol, ça sera une autre ». Donc ils ont entendu difficilement. Mais ils ont fini par accepter face à notre refus de couple. Et donc, ils n'auraient pas pu voir. Et ils ne l'ont pas vu tout de suite. Nous avons vécu, on va dire, 10 jours ordinaires avec Augustin, avant que la maladie se déclare.
Et ce livre, que dit-il, du coup ?
Eh bien, cette Germaine, à la base, hein, elle a changé son nom, comme son prénom, comme beaucoup de sœurs, quand elles rentrent dans leur service. Et c'est la vie d'une petite fille dans une grande fratrie. Et comme beaucoup à l'époque, ils sont malades, il y a des enfants malades qui chopent la tuberculose, qui ont d'autres maladies et ils meurent. Et elle le raconte finalement, la vie déjà à l'époque, mais elle aussi, elle a été atteinte par cette souffrance, elle a été touchée et elle a prié et elle a été aidée dans cette souffrance.
Elle a été aidée par quoi ?
Eh bien, par sa foi, par le Seigneur. Elle a été à Lourdes et d'un seul coup, elle ne boitait plus. Donc, elle voulait remercier et voulait devenir religieuse. Ensuite, la maladie l'a rattrapée. Mais tout du moins, elle a eu cette pause dans la maladie comme Augustin a aujourd'hui. Alors, je dirais, les premières personnes qui ont prié vraiment pour notre petit Tintin et nous, c'est la communauté paroissiale de Guadeloupe, là où il est né, c'est nos anciens amis rennais. Et puis, c'est cette communauté des sœurs qui sont des Clarisses et qui sont actuellement au Canada et qui ont toujours prié pour Augustin et qui continuent à prier.
Et est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui vous écoutent, qui y en a peut-être qui traversent ce même genre d'épreuves, qui sont peut-être au début de ce processus d'acceptation là, qui ont du mal. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner?
Alors, des conseils, je dirais, avec beaucoup d'humilité, j'en ai pas à donner, mais c'est davantage à travers les témoignages que l'on peut entendre. Moi, finalement, ce qui m'a aidé aussi, hein, c'est les différents livres. C'est aussi parfois des témoignages que j'ai entendus. C'est des articles, comme dans Famille chrétienne, qui peuvent aussi aider. Donc, je dirais, c'est d'abord à travers nos témoignages que l'on peut faire. Alors, ce que je peux dire dans nos témoignages, souvent, je dis, j'écoute, notamment au moment du diagnostic. J'écoute, j'analyse, et je vois après, j'essaie de voir les situations et quel est le meilleur pour nous. Mais jamais prendre une décision dans la précipitation quand le temps peut nous être donné. Et enfin, d'être ferme. Savoir être ferme quand notre décision est prise et respectée. Voilà. Augustin, notre foi était affirmée déjà par Jean-Baptiste. Et donc, à l'hôpital, j'avais mis ce chapelet sur lui, pour que quand on ne soit pas là, il ait cette présence physique de Dieu et de la Vierge Marie. Il m'a été demandé de retirer le chapelet et j'ai refusé. Voilà, une sorte d'affirmation. Et puis c'est de savoir aussi prendre son temps de regarder les petites choses quand ça ne va pas. Et comme ça, on peut s'émerveiller de petites choses, parce qu'à un moment donné dans notre vie, hélas, on est affaibli, on peut être dans un lit, et si on ne sait plus voir ces petites choses, on peut encore tomber plus profondément dans les ténèbres. Et ça va avoir un petit sourire, voire un petit clin d'œil, ça peut réjouir une journée. Donc voilà. Et puis, c'était la question fondamentale que je me suis posée à ce moment clé où on aurait pu se séparer avec mon mari, c'est quel sens je donne à ma vie, quel sens je donne à la vie. Et quand c'est qui plus est un tiers son enfant, qu'est-ce que je veux pour lui? Voilà, quelles sont les limites? Parce que pour mon enfant, pour le respect de sa vie, pour sa dignité à lui.
Prendre du recul.
Beaucoup de recul, et puis voilà, se poser aussi les bonnes questions spirituelles. Est-ce que je peux avoir une aide spirituelle, économique, sociale, physique? Finalement, je me trouve aussi dans la position à devoir demander de l'aide, alors qu'avant, je proposais de l'aide. Donc, c'est compliqué aussi parfois de demander de l'aide parce qu'on se sent diminué, mais ça nous rappelle à être plus humble.
Et puis, pour terminer, je vous ai demandé d'apporter votre prière préférée.
Est-ce
que vous pouvez nous la lire?
Bien évidemment. Alors, la prière préférée, comme beaucoup, c'est la prière de Charles de Foucault, avec Sainte Thérèse de Lisieux aussi. C'est mon père, je m'abandonne à toi. Alors cette prière a eu ce sens complet le jour où finalement on m'a annoncé le diagnostic d'Augustin. Je suis rentrée de l'hôpital et je suis passée à la chapelle militaire pour offrir au Seigneur, à dire « m'abandonne pas, je t'ai demandé, ne nous abandonne pas ». Et au moment où je rentre dans la chapelle, ils étaient en train de chanter cette prière. Donc je me suis effondrée en larmes parce qu'elle avait tout son sens. Régulièrement aujourd'hui, je peux avoir effectivement des larmes selon ce que l'on vit, selon ce que des amis peuvent vivre aussi autour de nous, où on va prier pour eux. Donc voilà, c'est mon père. Alors, on peut l'avoir en chant aussi, hein, mais je vous épargne. Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout et j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. Je finirai en disant t'appartenir au ciel.
Et ma toute dernière question, c'est si Jésus était là en face de vous. Carrément. Qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de vos épreuves, votre épreuve ?
Alors, c'est marrant cette question parce que souvent quand je rencontre quelqu'un d'inconnu, je m'imagine que c'est le Christ que j'ai en face de moi. Donc
trop
c'est
d'honneur.
Excellent. Et du coup, de le regarder comme si c'était le Christ aussi. Donc, le Christ, je dirais, tu nous as envoyé des épreuves. Mais effectivement, tu es là et tu nous fais grandir. Alors, c'est dur sur Terre, bien évidemment. Mais finalement, ce qui est dur sur Terre, c'est rien par rapport à l'éternité, à l'infini. Alors, je veux bien souffrir, mais j'offre aussi nos souffrances pour le rachat de nos péchés, que la terre soit meilleure. Et puis, merci de nous faire découvrir finalement le plus profond de toi-même à travers nos deux enfants.
Merci beaucoup Laetitia.
Merci Marie.
Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Laetitia et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour directement sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast-fc. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.